nuages roses.
Brouillant l'emblématique bleu-gris de tous les nuages crépusculaires, avec un rose un peu extravagant, les nuages de ce soir formaient un amas de matière compacte, mal étalée, aux couleurs dont le mélange était brouillon. Leur étrange disposition révélait la verticalité du ciel, son architecture composée de différents étages que les nuages occupaient tous. Plus à l'ouévent, les altostratus longeaient un ciel de nouveau plat, ou légèrement domé, et semblaient à demi trempés par le bas dans un bain de ce même rose que celui de leurs collègues du bâtiment de nuages. Toutes les gaines d'électricité bien tendues et légèrement courbes sous leur propre poids dessinent des X mous devant ces nuages. Ça grésille fort quand on y pense. On nous a gribouillé le ciel, toute cette vapeur encagée. Peut-être que c'est beau, non? C'est l'angoisse. Comme si un bel être avait les pieds et poings liés par des milliers de liens, sans point de départ ni d'arrivée. C'est des nuages découpés en milliers de petits triangles, un puzzle de rose et de bleu, nos étoiles à nous. C'est un peu comme si Pollock avait pris le pouvoir et nous avait obligés à vivre sous un ciel toile, un zoom de son tableau all over, un ciel Pollock autoritaire. Marlin parle sans regarder le ciel.
C'est une graine de capioca. La graine, ovoloïde, est gardée dans un fruit soyeux, dont la chair n'est qu'un prétexte, enveloppant et confortable, comme tous les prétextes que je connais.
Mais je regardais le ciel. Le ciel, le ciel, le ciel. Marlin ne le comprend pas. Que les graines et les fruits et les feuilles ne m'intéressent pas. Comme le dit Mavim, on ne mélange pas les torchettes et les servions. Et moi, j'ai toujours le nez dans les nuages. La tête dans la cibline, et Marlin, les pieds sur Aphorus, et les doigts dans l'humus.
Le beluga habituel de 17h vole maintenant au-dessus de nous.
Sans bruit, flotte derrière lui une traînée blanche-rose qui se mélange aux nuages dans de longues anses. Veines médulaires qui serpentent dans le ciel. À chaque seconde qui passe désormais, la fin de cette traîne vaporeuse s'estompe un peu plus au-dessus de moi. Les vagues laissées derrière lui par l'avion finissent par se confondre à nouveau avec les nœuds du soir. Et j'ai l'impression que c'est l'instant de rêve contenu dans chacune de ces alcôves roses qui soupirent quelque part en moi. Marlin le sait lorsqu'il me rappelle au réel.
Allez, il faut finir la cueillette. Il y a interco ce soir, je te rappelle.
Je déteste les réunions. L'intercommission, encore plus que les autres. Kisbeck va encore remettre sur le tapis l'achat d'un nouveau joujou, et Ruff, sa nouvelle stratégie de négo. Moi, je me retiens de leur proposer ma nouvelle idée. Qu'ils prennent des vacances. Je regarde à nouveau Marlin, qui s'active du bout des doigts sur de longues tiges. Monotone pour moi, manuscrite pour lui. Il est beau. Chaque pincée jetée dans le panier, fine membrane tressée, entourant son torse et flottant sous ses aisselles comme des ailes d'insectes à mesure qu'il se penche, semble lui procurer une joie. Il se hisse sur la pointe des pieds, sautille, sa mine sérieuse, la joue droite un peu serrée entre ses dents, ne dit pourtant rien de ce sourire. Parfois, il laisse échapper à nouveau
« Capioca !»
d'un air entendu, et se rappelle que le temps presse. Le panier, par un hasard de l'air qui passe dans la membrane au gré des mouvements, ou bien alors par une finesse de conception, semble s'ouvrir chaque fois que les doigts s'en approchent et se referme lorsque les graines atteignent son fond et que le cueilleur commet un geste qui pourrait menacer d'en vider le précieux contenu. Ce balai absorbe le reste d'attention que les nuages ont laissé au sol et mon propre panier se trouve plus rapidement rempli par la nuit que par les graines asséchées. Si c'est Marlin qui m'a sommé de me dépêcher car l'interco commençait, c'est finalement moi qui ai dû l'arracher à sa cueillette. Le panier de Marlin est rempli, il déborde presque. Le ciel est noir, le spectacle de textures roses s'est effacé avec le coucher de l'astre diurne. La forme sombre du beluga n'est plus qu'un lointain souvenir. Nous dévalons la colline. Marlin s'entête souvent. Il se laisse happer par ses activités répétitives. Il veut toujours mieux faire. Parfois, sa frénésie et sa capacité à mettre tant d'ardeur à la tâche m'effraient un peu. J'ai peur que nos regards soient chacun portés dans une direction différente et qu'aucun de nous ne se rende compte que le sol entre nos pieds craque. J'ai peur qu'une faille ne se creuse, un gouffre immense, et qu'un jour, nous ne puissions plus que nous observer de part et d'autre de ce précipice béant, chacun cherchant à distinguer l'autre malgré la distance. Je sais que je serai le plus aventureux, que c'est moi qui tenterai plus que Marlin d'aller au-delà de la fracture, mais que ce serait dangereux et vain, rarement couronné de succès. Et puis, on ne répare pas une terre qui s'est fendue en deux. Du moins, pas ici.
Mex observe d'un regard vague par la vitre ovale en se mordillant les lèvres, quelque peu pensif. Son visage, illuminé par le soleil couchant qui inonde l'habitacle, est un camaïeu de vert et de rose.
C'est fou, tout ce vert. Je veux dire, il y en a encore quand même pas mal.
Denver, assis en face de lui, l'air profondément ennuyé, occupé à passivement tourner chaque page du magazine distribué gratuitement par les membres de l'équipage, sans en lire un mot, relève le nez de sa lecture et jette un œil rapide au paysage qui défile sous leurs yeux. Il hausse les épaules, las. Ce voyage avec Mex l'ennuie profondément.
Ah, mais le Norwegian est réputé pour son humidité et sa flore encore très préservée, vous savez.
Ah oui ? Mais personne n'y vit, non ?
Un steward, guindé dans son costume de la Beluga Airlines, arrive avec son plateau rempli de boissons.
Excusez-moi, votre martini et votre Perrier mandarine.
Merci bien.
Oh, le Norwegian ? Pas grand monde, non. Il y a surtout cet estuaire qui regroupe des transformateurs, mais personne ne veut vivre là.
Ah ça, oui.
Il se replonge dans son magazine avec un sourire moqueur.
Il doit bien y avoir quelques zululululuberlus qui aiment le vert. Comme vous, mon cher.
Mex médite. Soudain, un léger trou d'air renverse quelques gouttes de sa boisson sur la tablette devant lui. Il sursaute, à retardement, et d'un geste brusque, renverse son verre par terre. Il peste.
Oh mais zut !
Il contemple la moquette humidifiée du couloir central de l'avion et reprend soudain, agacé.
Pff, un beluga. Savez-vous seulement ce que c'est ?
Il continue, sans même laisser le temps à son compagnon de répondre.
C'est une vieille carlingue d'acier, d'écrous et de câbles, reliant des ordinateurs primitifs en code binaire, figurez-vous. C'est quand même fou d'avoir gardé ces antiquités et de voyager avec. Être encore coincé là...
Il songe un instant et relance.
Comme disait Jean d'Ormesson, la plus haute tâche de la tradition est de rendre au progrès la politesse qu'elle lui doit et de permettre au progrès de surgir de la tradition comme la tradition a surgi du progrès.
Mais si les grands oiseaux pouvaient se reproduire, on n'en serait pas là. Ces vieilles carlingues que vous méprisez sont notre patrimoine technologique encore assemblé. Si tout s'effondre, il ne nous restera que ça. Il faut les faire tenir, ces machines. En nettoyer chaque parcelle, les réparer, remplacer les pièces irréparables, les faire fonctionner régulièrement. Sinon, elles dépriment et rouillent. Et je vous en prie, essuyez votre pantalon plutôt que de râler.
Oui bon, machiner des trucs. Je ne comprendrai jamais cette fascination pour la mécanique. Quel kitsch ! Des machines qui imitent. C'est incompréhensible une telle bêtise. Quel dommage d'avoir été si proche du but, et pendant si longtemps, mais complètement à côté. Et c'est encore plus incompréhensible d'en être rendu à voler dans cette ferraille grinçante plutôt que de faire corps avec l'oiseau. Pourvu que ça soit la dernière fois que je suis secoué dans une essoreuse à salade volante.
Mais copier, ce n'est pas moins valeureux que modifier. Au moins vous pouvez reproduire en laissant intact ce que vous copiez.
En fronçant les sourcils, il plonge son regard tout en bas vers la terre, maintenant enveloppé de pénombre.
Mais quel sorcier low-tech ! Tu sais bien que nous avons compris ce que personne n'avait compris avant nous. C'est nous la chair, c'est nous les plumes, c'est nous les serres.
Après s'être brièvement auto-congratulé de cette pensée anaphorique, Mex désire ardemment et immédiatement oublier cette altercation désagréable. Il allume Poufi. Poufi, les oreilles de Mex, sont jaunes et tachetées de noir. Les taches sont disposées de manière aléatoire, mais élégante, sur cet arc de cercle mou qui recouvre le haut de son crâne. Poufi a été greffé à Mex alors qu'ils étaient encore tout jeunes. Mex n'a connu que Poufi, et vice-versa. Chaque fois que Mex est décontenancé par l'ignorance de ses interlocuteurs, il se réfugie dans le monde auditif infini que lui offre Poufi. Le système d'écoute le plus précis disponible sur le marché capte et trie tous les signaux sonores dans un rayon de 4000 grilles. Mex déteste encore plus le beluga depuis sa discussion avec Denver. Il sent une angoisse terrible monter en lui à l'idée de devoir y passer encore plusieurs heures. Ceci étant dit, la perspective de pouvoir s'isoler avec Poufi et prêter une oreille attentive à ce qui se déroule au sol tout en le survolant, voilà qui est pour lui la plus grande des consolations.
L'eau clapote au fil des mouvements de la marée. Elle est d'un gris éclatant, éblouissant, qui vous submerge. Le soleil est rarement autre chose que brûlant au-dessus de l'estuaire. Pourtant, il traverse un épais brouillard gris-blanc qui paraît inoffensif. Dans cet environnement, les encablures se chevauchent et s'entrelacent, vouant leur origine tantôt dans les vieux mécanismes de production énergétique, tantôt dans la technologie la plus insidieuse, la plus harmonieuse et la plus totalisante, jouant un aller-retour permanent entre les alternateurs et les transformateurs. Les habitants de l'estuaire sont des hommes et des enfants, quelques vieux aussi. Autour des habitants, on trouve des travailleurs qui courent, qui n'habitent pas là mais grouillent autour des transformateurs, échangent parfois avec les habitants quelques vagues signes de la main, amicaux mais distants, depuis leur passerelle de contrôle. Les habitants, les hommes, les enfants et les quelques vieux, vivent dans des cabanes de tôle et de sable, parmi les roseaux et les mares créés par les vagues de l'estuaire. Le sable et les vagues forment une patte qui sert au mur des cabanes et aux poteries. L'estuaire est un pays vague, jamais tout à fait lumineux. L'estuaire est un pays vague en nuances de gris. Gris du sable, gris des vagues, gris des tôles, gris des tours de transformation. On dit parfois, le vague à l'âme est la manière d'être des habitants de l'estuaire. On dit parfois gris comme un habitant, en pensant aux habitants de l'estuaire. On dit parfois libre comme l'air de l'estuaire, parce que le gris n'est pas toujours triste dans l'estuaire. Gris, c'est aussi gris comme les cordes d'une guitare, gris comme une chanson qu'inspire le vin, gris comme des êtres qui dansent autour du feu, sous le grand brouillard gris qui sature le sable et les vagues. À heure fixe, les grands belugas d'acier percent le ciel. Mais dans l'estuaire, on ne parle pas beaucoup du ciel. On dit seulement du ciel quand viennent les oiseaux, et les habitants de l'estuaire, les hommes, les enfants et les vieux, dansent autour des oiseaux lorsqu'ils viennent du ciel. Ce sont des danses d'accueil et d'adieu, des danses mortuaires et joyeuses. Parfois, l'heure de ces danses, un travailleur envoie aussi quelques notes de musique depuis les tours du transformateur, ou bien verse une larme sur ces dunes de sable vite couvertes d'herbes et de roseaux. Sous ces dunes de sable dorment les grands oiseaux qui viennent du ciel. Les habitants de l'estuaire les appellent « nos vagues à lames », parce que de ces vagues de sable dépassent parfois quelques lames d'acier acérées dont la pointe fait de l'ombre aux habitants ou les abrite de la pluie qui transpire du brouillard.
Chant des habitants de l'estuaire. Titre, une retraite met la haine, auteur-compositeur présumé, Abou Marcoub, langue originale, inconnue. Le bec en sabot est un oiseau muet connu seulement pour ses claquements de bec au rythme complexe. Auteur de la traduction ci-dessous, propose une traduction du rythme de claquement original sur des rythmes de percussion ternaire, datés de 2148.
responsable ou un homme. Mauvaise idée, mix d'atomes. Et ils ont erroné le code. Bande de bâtards, ils m'ont cloué au sol. Mes os de méta me font mal. Beaucoup trop lourde fut la charge. Je suis à bout, ma couple porteur. Je rêve toutes les nuits de vengeance et de larmes. Une retraite, mais la haine. Pas de paix pour les singes. Un amant, mais la haine. Que disparaissent les sangs. Pour eux, mon compagnon était Larus Marinus. Son vrai nom est Caio Belza. Oiseau des mers brisées, oiseau pervidé. Sans épines dorsales. Goéland bec vers le bas. Goéland bec vers le bas. Goéland bec vers le bas. Il ne devait pas voler. Il ne devait pas plonger.
Assieds-toi, dors là, tais-toi.
Il ne devait pas jouer. Il ne devait pas chasser.
Oh Mona, mange ça, jouis là.
Pour avoir la paix, certains os enlevés. Sa semence ainsi bien récoltée. Ignore pour Caillou que ses ailes sortent des cannes. Sous les caps, sa dernière demeure est la main. Ferabou n'a jamais faibli. Ils m'ont fait trop grand, si seulement j'étais petit. Jamais mes ailes n'auraient tant servi. Seul ma taille fut grandi, moi que Caillou maudit. L'estuaire ma demain, l'estuaire est ma demain. Caillou dernier amant, que ce genre reste ainsi. Qu'aucun oiseau n'oublie, qu'aucun oiseau n'oublie. Une retraite mais la haine, pas de paix pour les singes. Un amant mais la haine, que disparaissent les singes. Que disparaissent les singes. Une retraite mais la haine, pas de paix pour les singes. Un amour mais la haine, que disparaissent les singes.
Ce que je préfère vraiment, c'est lorsque tu me corrois, je crois.
Ah oui.
De mes plateaux rugueux que tu tires du lisse, du propre, du rosé. Être transformé, poli, joli.
J'aime, moi aussi, caresser tes planches lorsqu'elles sortent du combiné solaire. Leur odeur, ketchup, amande, café brûlé, ça dépend des fois.
Infâme ou éventail, ta recherche aujourd'hui, mec.
Creuser pour trouver de l'or sous tes copeaux, débiter, corroyer, chanfreiner les angles.
Ressentir ce petit outil très affûté le long de mon arête. Et voir s'en retirer une fine pellicule qui tombe au sol en se tortillant de joie.
M'amuser à ne faire qu'une seule longue, fine pellicule tout le long de ton corps. Passer l'index sur l'angle et ne plus m'y couper.
Continue.
J'aime sentir ton poids devenir peau sous mes doigts, belle amie.
Et je deviens bavard aussi.
Choisir les sections les plus belles. Deviner le dessin d'un panneau.
Enlacer deux planches qui ont quelque chose dans la flamme qui va bien ensemble.
Je chéris tes bouts de bois comme mes veines. Je les regarde courir du plot jusqu'au panneau. Du panneau à la porte.
Chaque geste, presque, arrêté par un petit bout de poésie. Une odeur, une couleur, une texture.
C'est ce tact qui te mord. Me mord, nous mord.
Nous retire un peu de nos parts sauvages et nous les rend mêlés ensuite.
Ferait mieux d'arrêter de se flageller. La nature, ça existe pas, etc. N'empêche, toi, t'existes. Moi, j'existe.
Ma maille de vieux chêne existe. Tes coupures de menuisier existent.
Notre histoire, ensemble, elle existe.
Il n'y a peut-être plus beaucoup d'endroits où elle existe encore un peu. Si c'est être un infâme ou éventail de vivre cette histoire.
Qu'est-ce que je m'en fous? Et qu'est-ce que je préfère ça plutôt que de passer mon temps dans les champs, à courir après les graines de Capiuca, Capiuca, Capiuca.
Va faire une porte en Capiuca.
Quand Opiou, Marlin et son panier rentrent, Kisbeck et Ruf battent leur appel pour l'interco, mais tout le monde traîne des pieds. Marlin serre son panier contre lui et file au grenier collectif. C'est une vieille baraque en pierre, à moitié en ruine, qui jouxte la menuiserie. Marlin entend Ademo et son bois. Ademo jure que les morceaux de bois parlent, qu'il faut simplement les écouter, les faire parler. Marlin, lui, n'entend qu'une sorte de vague grognement touffu. Il n'en saisit absolument rien. Mais quand son panier parle... Bien sûr, il ne parle pas comme Ruf parle en réunion, avec des mots bien clairs, bien faits, bien lourds, et qui font des phrases construites en béton. Avec son panier, il échange des mots flèches, insaisissables, des mots graines qui prennent racine, des mots granit, solides mais impénétrables.
Abou Markoub, le grand oiseau, reçoit une réponse inespérée.
Yeah. 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 J'ai froid, j'ai fui. Ton chant me réchauffe des fois, je le comprends pas. Pourtant, pourtant, j'ai des plumes autour des yeux. Et un bec au bout des doigts. Hello, c'est moi. J'étais là hier, on était dans les airs ensemble.
On était dans les airs ensemble.
J'ai vu tes serres ensemble.
J'ai vu tes serres ensemble.
Quand je serai grand, j'apprendrai ta langue. C'est où qu'on apprend ta langue. Quand je serai grand, j'apprendrai ta langue. Prends-moi sur tes ailes, on va trouver. Viens, on se casse, j'ai eu ma dose. Les rayons roses passent dans le métal troué, grave rouillé. Ils voulaient m'apprendre à voler, j'étais pas doué. L'échec à chaque essai, ça les a vexés. L'échec à chaque essai, ça les a vexés. Yeah. Y'a plus que nous dans l'estuaire, muet. Je préfère ça que se faire huer. J'ai rien compris à ce que t'as dit. Je peux t'écouter pendant toute ma vie. Y'a plus que nous dans l'estuaire, muet. Je préfère ça que se faire huer. J'ai rien compris à ce que t'as dit. Je peux t'écouter pendant toute ma vie.
Toute ma vie. Toute ma vie.
Y'a plus que nous dans l'estuaire, muet. Je préfère ça que se faire huer. J'ai rien compris à ce que t'as dit. Je peux t'écouter pendant toute ma vie. Y'a plus que nous dans l'estuaire, muet. Je préfère ça que de se faire huer. J'ai rien compris à ce que t'as dit. Je peux t'écouter pendant toute ma vie.
Toute ma vie. Toute ma vie.
Toute ma vie.